Ce sont les plus gros animaux existants sur notre planète. Les baleines ont toujours fasciné les hommes, des premiers marins aux scientifiques qui aujourd'hui étudient leur biologie. Avec les cétacés, les chercheurs peuvent travailler, on va le voir, sur de nombreux aspects comme la biologie marine, l'éthologie, l'écologie ou l'anatomie. Avec mon invité, le bioacousticien Olivier Adam, nous allons nous intéresser en particulier au chant des baleines à bosse pour comprendre ce que les mâles, qui en sont d'ailleurs les interprètes, peuvent bien vouloir exprimer. Depuis plus de 20 ans, les baleines sont protégées par un moratoire. Un projet de classement au patrimoine mondial de l'UNESCO est en cours et c'est notre dossier donc cet après-midi avec vos questions, vos messages, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science, Axel, aujourd'hui encore très peu de temps pour inverser la tendance concernant le réchauffement climatique.
Oui Mathieu, il est encore temps, mais il reste 3 ans pour commencer à faire chuter les émissions mondiales de CO2, un ultimatum publié dans la revue Nature dont on discute avec le climatologue Hervé Le Truc.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupin qui reviendra sur l'obligation vaccinale suite à vos nombreuses remarques. Stéphanie Texier réalise cette émission préparée par Chantal Le Montagnier et Benoît Tonson.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les baleines à l'honneur dans notre dossier dans un instant avec vous Olivier Adam, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous cherchez à comprendre en étudiant le chant des baleines au juste ?
Tout, aussi bien les espèces des cétacés, il y a 80 espèces de cétacés, que leur environnement. Donc le son en fait va pouvoir nous permettre d'avoir des informations sur ce qu'elles font, où elles sont déjà, leur interaction, les impacts éventuels des activités humaines et donc leur environnement d'une façon large.
On peut tout savoir grâce au chant des baleines comme ça ?
On essaye en tous les cas d'avoir le maximum de connaissances, oui.
Ouais, vous revenez d'où ? Vous allez où bientôt ?
Alors je reviens de Guadeloupe où on étudiait, on observait les dauphins et là je pars à La Réunion samedi prochain pour une conférence mondiale sur les baleines à bosse justement.
Voilà, c'est l'avis d'un bioacousticien spécialiste des cétacés et on va vous retrouver dans un instant pour découvrir votre travail et puis bien sûr parler plus généralement des baleines avec les auditeurs qui nous rejoignent. Il nous reste 3 ans pour sauver la planète avant le sommet du G8 qui commence vendredi en Italie. Un groupe de diplomates et de scientifiques fait le point sur les efforts concrets à accomplir pour respecter l'accord de Paris et limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Au-delà de ces 3 ans, la face du monde sera irrémédiablement modifiée avec des conséquences certainement dramatiques. Hervé Le Truc, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes climatologue, membre de l'Académie des sciences. Et on va commenter avec vous cet édito paru dans la revue Nature et signé de la diplomate des Nations Unies, Karen Christiana Figueres. Que pensez-vous de cette démarche, de cet ultimatum, Hervé Le Truc, juste avant le G8 ?
Je pense que c'est utile de rappeler qu'effectivement, le temps s'écoule. Alors le chiffre de 3 est quelque chose d'un tout petit peu arbitraire. C'est peu d'années en tout cas. On n'a pas toujours conscience du fait que ce qu'on voit aujourd'hui du changement climatique, c'est le résultat des émissions passées. Les émissions d'aujourd'hui vont créer une situation qu'on ne dominera pas parce que tout simplement les gaz à effet de serre restent très longtemps dans l'atmosphère et qu'on a déjà très largement engagé le futur. Alors il y a un moment où on aura engagé le futur de manière suffisamment forte pour ne plus avoir de chemin pour rester sous ces fameux 2 degrés qui sont la marge supérieure qu'on s'est donnée lors de l'accord de Paris.
Alors justement, vous parliez de ces 3 ans, de cette dernière limite. Comment ils sont calculés ici dans cet article ?
Alors c'est des calculs d'ordre de grandeur et ces calculs d'ordre de grandeur, ils sont à prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire effectivement de donner un petit peu un sens aux échéances par face auxquelles on est. Aujourd'hui, si on essaie de calculer, on a une quantité de carbone maximale qu'on peut émettre dans l'atmosphère si on veut ne pas dépasser quelque part plus tard dans le siècle ce seuil des 2 degrés de réchauffement. De cette quantité de carbone, il y a une grosse partie qu'on a déjà émise. Donc il nous reste une plus petite partie. Si on prend ce reste à émettre auquel on a droit et qu'on le divise aujourd'hui par ce qu'on émet annuellement, alors c'est toujours des ordres de grandeur, on est à une vingtaine d'années à peu près. Mais si on attendait de faire quelque chose de non progressif, d'émettre pendant 20 ans, puis on s'arrête d'un coup, ça veut dire que dans 20 ans, il faudrait arrêter tout ce qui est charbon, pétrole, gaz naturel. Donc bon, là, ce que j'essaie de calculer cette estimation, c'est une sorte de transition. Cette transition, elle nous oblige à réagir avec des durées qui se chiffrent en années, plus en décennies. C'est-à-dire qu'on doit effectivement avoir enclenché quelque chose de fort dans les années qui viennent, sinon on va se trouver effectivement confronté tôt ou tard avec l'impossibilité d'empêcher le climat plus tard dans le siècle d'atteindre les 2 degrés de réchauffement.
Ça veut dire que quand même ces 2 degrés, c'est une cible atteignable, parce que plusieurs fois des climatologues à cette antenne nous ont dit maintenant on pense 3 degrés, on a oublié les 2 degrés.
Bah, le chemin est de plus en plus étroit. Donc après, on peut juger si c'est atteignable ou pas selon la foi que l'on a entre la capacité de réaction de nos sociétés. Je pense que ce qui sera clé, c'est effectivement la capacité d'une part de mobiliser fortement tous les secteurs de la société face à ces problèmes-là, ce qui veut dire avoir aussi une manière appropriée de transmettre ces messages climatiques. On voit bien qu'aujourd'hui, ils sont vus comme une opportunité par beaucoup de gens, provoquer des transitions, créer des nouveaux emplois, et puis aussi par une crainte, comme un facteur d'angoisse pour beaucoup d'autres gens qui disent, ma foi, s'il y a des emplois qui sont créés, il y en aura qui seront aussi perdus, et c'est peut-être les miens. Mmh. Donc il y a une appréhension face à cette... Et ce qu'on finalement on maîtrise le moins, c'est la réaction des sociétés face à ces enjeux. Mais bon, il reste effectivement un chemin, d'autant plus qu'on ne sait pas avec une précision absolue ce que va faire la planète Terre. On a été cité dans les grandes lignes, et on voit déjà le changement climatique se développer selon ces grandes lignes-là. Ensuite, on peut avoir quelques bonnes surprises, on peut avoir aussi des mauvaises surprises, donc il faut essayer de faire au mieux tant qu'on a encore un chemin qui est ouvert.
Mais comment justement vous appréhendez, vous sentez-vous la réaction des sociétés par rapport à cette problématique aujourd'hui, Hervé Le Treut ?
Ça, c'est très difficile, parce que moi je suis climatologue, dans un monde de climatologues, j'essaie de faire des exposés à droite, à gauche, de me confronter avec d'autres personnes. Je ne prétends pas avoir une exposition à toutes les strates de la société. Je crois qu'il y a effectivement un mouvement de prise de conscience qui est assez large. Le gros problème, c'est qu'on est confronté maintenant à une horloge qui fait tic-tac. Enfin, le problème, c'est qu'on a déjà émis beaucoup d'effets de serre. Mmh. Comme je le disais, on a déjà beaucoup engagé le futur. On a créé une sorte de dette climatique. Et il y a un aspect de course contre la montre, de course contre l'horloge, et qui rend les choses plus difficiles. Si on n'avait pas cet aspect de course contre l'horloge, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens.
C'est vrai, oui.
Beaucoup de choses qui sont très positives. On est confronté à cette difficulté du temps qui passe.
Mais est-ce qu'on n'a pas justement besoin de cette horloge, d'objectifs précis? Parce que c'est ce qui est énoncé dans l'article, par exemple. On nous dit, d'ici 2020, 30% d'électricité mondiale doit être issue du renouvelable et toutes les centrales à charbon doivent être fermées. Est-ce qu'on ne doit pas se fixer des objectifs mondiaux comme ceux qui sont énoncés ici?
Si, je pense que c'est quelque chose de tout à fait bénéfique. On a peut-être trop... énoncer d'objectifs de fin de siècle qui sont très difficiles à développer ensuite selon un rétro-planning qui devient très incertain quand on s'approche du présent. Donc là, il faut effectivement, je pense que se donner des dates pour les points d'inflexion des émissions, c'est-à-dire quand est-ce qu'elles vont commencer à diminuer vraiment. Là, il y a un frémissement qui laisse sans penser qu'elles n'ont peut-être pas beaucoup augmenté ces dernières années. Mais donc, on a besoin d'objectifs de relativement court terme, je pense. Mais autrement, les choses sont très difficiles à mettre en œuvre.
Quel est l'objectif prioritaire pour vous, justement, aujourd'hui, Hervé Le Treut? S'il fallait vraiment choisir un prioritaire, efficace en tout cas, et qui mobilise le plus de gens possible, ce serait lequel?
Il y a beaucoup de choses. Enfin, je crois que c'était une question difficile parce que, de fait, il n'y a pas une solution. Il y a un ensemble de solutions. D'ailleurs, dans l'article, même en essayant de regrouper autour de 6 initiatives, au moins qu'il faut mettre en jeu les sociétés à tout leur niveau étatique, subétatique, régional, municipal, enfin, les entreprises. Donc, il faut qu'il y ait un mouvement qui touche largement la société. De ce point de vue-là, je pense qu'une des priorités, c'est certainement l'éducation. Je crois que tant qu'on aura des votes qui sont contraires à ces problématiques-là, dans des pays aussi importants que les États-Unis ou la Grande-Bretagne, et on semble penser qu'il n'y avait pas l'unanimité autour de ces problèmes-là en France non plus, je crois qu'on sera en difficulté par rapport aux transitions qui s'annoncent, qui sont énormes. Aujourd'hui, on a 80% de notre énergie, qui est mondialement un peu plus, qui est liée au charbon, au pétrole, au gaz naturel. Si on dit qu'on doit passer complètement à une société sans émissions de carbone dans 60 ans, ça veut dire une transition énorme vers des énergies qui aujourd'hui sont faibles. Le solaire plus l'éolien, c'est peut-être 1% à peu près en ordre de grandeur de l'usage actuel de l'énergie à l'échelle mondiale.
Alors, l'article sonne comme un ultimatum. Pourtant, il est très optimiste, je trouve, dans sa construction. Est-ce que vous aussi, vous êtes optimiste? On peut encore être optimiste?
Et audacieux.
Et audacieux, comme c'est dit dans la dernière phrase.
Je pense que audacieux, certainement. Et alors, le mot optimiste, optimisme, bon, c'est très connoté culturellement. Je pense qu'on aime bien faire montre d'optimisme dans certaines sociétés, moins dans d'autres. Je pense que ce qui est important, c'est d'abord d'avoir une réflexion sur ces enjeux, parce qu'ils ne sont pas simples. Je pense que le chemin qui permet à la fois de rester dans un monde juste, dans un monde juste socialement, juste politiquement, dans un juste, je dirais, au niveau international, dans un monde qui préserve la biodiversité, puis dans un monde qui préserve son climat, et c'est un chemin qui est étroit, qui demande à être réfléchi, à être débattu. Et je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment passer à cette phase de l'action, qui est aussi une phase de la complexité. Pour moi, c'est une des difficultés qu'on a eues ces dernières années, c'est ne pas voir que passer d'un signal d'alerte par rapport au changement climatique à un signal où on prend des mesures, ça veut dire se confronter collectivement à des espaces de complexité. On a des choix qu'il faut trancher et qu'il faut trancher collectivement.
Merci en tout cas Hervé Le Treut pour votre analyse suite à cet édito donc publié dans la revue Nature. Merci Axel et à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la Suisse qui installe le premier aspirateur industriel à CO2, une véritable usine à recycler l'air de l'atmosphère pour en extraire le CO2 et le revendre. Selon les ingénieurs, l'installation devrait permettre de récupérer 900 tonnes de gaz par an. À titre de comparaison, il faudrait 250 000 de ces aspirateurs pour faire baisser les 1% des émissions mondiales de CO2. Le gaz d'aspirateur géant est récupéré, envoyé via des tuyaux vers des plantations de tomates ou de concombres pour les aider à grandir. Le projet testé pour une période de 3 ans va également, dès l'année prochaine, tenter une méthode d'enfouissement des gaz souterrains pour parvenir à des émissions négatives de CO2. Le macroquenya, cet animal préhistorique étrange, trouve enfin sa place dans la classification du règne animal. Son squelette découvert pour la première fois par Charles Darwin restait un casse-tête sans nom pour les scientifiques. Avec son air de chameau sans bosse, ses pieds de rhinocéros et sa trompe d'éléphant version miniature, il était impossible de le classer grâce à ses critères anatomiques. Il fallait donc attendre de trouver un morceau de son ADN exploitable, une extraction difficile que viennent de réaliser des scientifiques allemands dans des restes fossiles découverts au Chili. Le macroquenya rejoint donc les chevaux, les tapirs et les rhinocéros dans le grand groupe des périssodactyles dont il aurait divergé il y a 66 millions d'années. Et puis le cacatoès a un sens du rythme très similaire à celui de l'humain. Cette particularité bien connue des possesseurs de cacatoès et à l'origine de nombreuses vidéos sur internet vient d'être étudiée dans la nature. En Australie du Nord, les mâles cacatoès armés de petits bâtons tapent des rythmiques régulières sur des morceaux de bois morts pour attirer les femelles aux alentours. En étudiant les enregistrements de ces batucadas de la canopée, eh bien les chercheurs montrent que la régularité rythmique des cacatoès et les phrasés qu'ils produisent propres à chaque individu sont impressionnants. Ils sont par exemple bien plus précis que les chimpanzés qui aussi tapent sur des morceaux de bois mais sans aucun sens du tempo. Une vidéo de ces cacatoès en plein show est à voir sur la page Facebook de la Tête au Carré. Allez, d'autres chants avec les baleines à bosse dans un instant.
For ya, ooh, we rock it, bam, rock it, bam, rock it. my soul. I wanna feel oppressed without any rest. I wanna see you sing. I wanna see you fight. 'Cause you are the real beauty of human rights. Ooh, makeba, makeba, makeba la. Can I get a ooh, makeba? Makes my body dance for ya. Ooh, makeba. Nobody can beat the Mama Africa. You follow the beat that she's gonna give ya. Only a smile you can all make it go. The separation of a thousand more. Ooh, make it bam, make it bam, make it bella. Can I get a ooh, make it bam, makes my body dance for ya. Ooh, make it bam, make it bam, make it bella.
Jane, Myriam Makeba à l'instant.
La tête au carré sur France Inter.
Voilà, dans la famille des cétacés, cet après-midi, nous allons nous intéresser à la baleine. Cet après-midi avec vous, Olivier Adam. Et nous sommes... voilà, dans le champ des baleines.
Champ des baleines, ouais. Baleines à bosse, qu'ils ont connu pour deux choses, hein, pour leur route migratoire exceptionnelle entre les zones d'alimentation, zones de reproduction, et les champs émis par les mâles, par les périodes de reproduction. Alors, ouais. On enregistre des champs ailleurs aussi.
Donc ça, c'est un mâle, forcément, qu'on entend.
Ça, c'est un mâle. On en enregistre aussi ailleurs. Moi, j'en enregistrerai à Saint-Pierre-et-Miquelon, par exemple.
Ça, c'est Madagascar.
Là, c'est Madagascar, ouais. Océan Indien. Et on s'intéresse énormément aux unités sonores. Là, vous avez entendu, il y a plusieurs émissions sonores qui sont émises les unes après les autres entre deux silences. Mm-hmm. Et on s'intéresse à ces unités sonores depuis 1971, c'est-à-dire un article qui est paru dans la revue Science et qui, en fait, indique que ces unités sonores sont organisées dans le temps.
Ouais. On peut réécouter, là, peut-être, Stéphanie.
Donc, du coup, on parle... Voilà, ça, c'est une unité après silence. Donc, elles vont avoir un panel d'une trentaine, quarantaine d'unités sonores plus ou moins complexes.
Et là, ce chant vraiment plus significatif là, qui arrive.
Exactement. Donc ça c'est très harmonieux. Il joue avec des modulations d'amplitude, des modulations de fréquence. Et donc, les unités sonores qui sont organisées entre elles correspondent à des sous-phrases. C'est-à-dire qu'elles vont se répéter après, pendant les 15-20 minutes du chant. Ouais. Et on peut extraire un leitmotiv qui va dépendre de l'océan où on enregistre, parce qu'il y a il va y avoir un dialecte régional. Ouais. Et puis de l'année, parce qu'ils vont changer, c'est pas des robots, donc ils vont changer leur chant.
Ça, au cours de la saison. C'est le même mâle que nous venons d'entendre.
Voilà, c'est ça. Ça, c'est un mâle qu'on a enregistré à Madagascar. En fait, on y va tous les ans depuis 2007, quoi. Et c'est des unités sonores qui n'ont rien à voir avec ceux de Guadeloupe.
Vous suivez les mêmes individus ?
Alors non, parce que c'est la même population, d'accord, parce qu'on sait que la population de l'océan Indien est spécifique à l'océan Indien. Par contre, ce n'est pas les mêmes individus.
Alors Olivier Adam, vous êtes bioacousticien, hein, spécialiste donc des cétacés, professeur à l'université Pierre et Marie Curie et chercheur au sein de l'équipe bioacoustique de l'université de Paris-Sud-Saclay. Vous avez publié avec Dorian Cazot un ouvrage qui s'appelle « Cétacés, nouvelles connaissances issues de la recherche française » aux éditions d'IRIAC. C'est un livre qui est le fruit d'un cycle de conférences.
Oui, on a organisé un cycle, donc toutes les mois depuis septembre l'année dernière, on avait une conférence par un collègue qui venait nous parler d'un thème particulier sur les différentes espèces. On a parlé de bananes, de dauphins, on a parlé de cachalots, entre autres, et d'orques. Et avec Dorian, qui est un étudiant postdoc à l'Institut de Bretagne, qui est exceptionnel, on a choisi de faire ce livre parce qu'en fait, on n'a pas filmé ces conférences et on voulait avoir une trace parce que les travaux des collègues sont exceptionnels. Et je dis pas ça parce que c'est des collègues français. Hein.
Ouais. Et vous êtes nombreux à travailler sur les cétacés ?
On n'est pas énormément en France, mais c'est pas la quantité, c'est la qualité, je crois.
Ah ouais, ouais. Et alors vous, en tant que bioacousticien, alors vous occupez que des cétacés ?
Oui, je fais que les cétacés depuis 2002, mais je pense qu'on a de quoi s'occuper parce que toutes les espèces, il y a 80 espèces, et toutes les espèces ont des sons différents. Mmh. Et on a beaucoup de travail à faire sur les sons. Par exemple, pour les baleines à bosse, on en est à expliquer comment ils génèrent les sons et quel est le contenu des chants, quoi. Donc on a quand même pas mal de perspectives devant nous.
Donc vous travaillez vraiment aussi sur la physiologie, l'anatomie de l'animal, pour comprendre comment aussi sont fabriqués ces sons.
C'est exactement ça. Alors comme vous l'avez dit au départ, en fait, le sujet d'étude qui est la baleine à bosse, on peut le prendre de plein de thématiques scientifiques différentes, biologie, écologie et anatomie. Moi, je travaille avec une collègue à New York sur l'anatomie et moi, je suis physicien, acousticien à la base, donc l'anatomie, c'est assez loin. Mais pour comprendre comment elle génère ces sons, on est obligé d'aller vers la dissection et puis d'extraire le larynx pour savoir comment ça se passe à l'intérieur.
Et on connaît tout le mécanisme aujourd'hui ? Vraiment, c'est bien renseigné du point de vue de la littérature scientifique ?
On l'a décrit dans un article de 2013, on l'a décrit complètement, on l'a modélisé la partie acoustique. C'est en fait, le système laryngé est très éloigné déjà de tous les autres mammifères, y compris les mammifères terrestres. Mais une fois qu'on a mesuré, caractérisé en fait tout leur système respiratoire, on est capable de lier certains types de sons avec les éléments anatomiques.
Oui. Alors ce qui est étonnant, c'est que quand on regarde un petit peu le sujet des baleines, on voit des publications sans arrêt. Hein. La semaine dernière, on s'en faisait l'écho à ce micro. Il y en a une très récente aussi qui est passée sur les toutes premières baleines à pattes, c'est ça ? Parce qu'en fait, elles marchaient au départ, les baleines, il y a 38 millions d'années ?
Voire 50, hein, 50 millions d'années. En fait, Pachycetus, qui est c'est un genre de loup avec des sabots qui a été retrouvé au Pakistan, c'est les ancêtres des cétacés. On a un peu identifié ça à cause de l'anatomie de son oreille interne. Mmh. Et puis après, jusqu'à... Alors lui, il était terrestre, d'accord ? Il était intéressé par aller s'alimenter dans les rivières ou dans les fleuves.
Il faisait quelle taille ? Enfin, c'était...
La taille d'un chien, d'un grand chien, quoi, d'un d'accord. gros chien. Et après, jusqu'à 35 millions d'années, donc de passer de 50 millions à 35 millions d'années, il y a eu une évolution qui a été terrible, puisqu'ils sont passés... complètement dépendant du milieu marin. C'est-à-dire qu'en 35 millions d'années, leurs pattes se sont transformées en nageoires.
Ça, c'est incroyable.
Ils ne pouvaient plus revenir pour leur activité vitale sur la terre ferme.
Et ils sont devenus des baleines ?
Et ils sont devenus des baleines et là, ils ont pris cher parce que en termes de morphologie... Alors après, il y a eu deux catégories qui sont les odontocètes, c'est-à-dire les baleines avec des dents, enfin les cétacés avec des dents et les mysticètes qui sont les baleines avec les fanons. Mais ce qu'on peut voir, c'est que morphologiquement, ils ont extrêmement changé parce que de passer de la taille d'un chien avec des pattes à ce qu'on connaît des grandes baleines, ne serait-ce que déjà de la taille, le fait que les évents, enfin les narines se sont déplacées du museau jusqu'en haut de la tête, etc. Enfin,
amusant parce qu'avec Jean Lebrun, finalement, on a fait une bonne transition sans le savoir parce que lui parlait des loups tout à l'heure, on enchaîne avec les baleines et vous nous expliquez qu'il y a un lien direct finalement entre les deux.
Oui, enfin, quasiment. Peut-être pas le loup parce
qu'il a été très long sur le temps.
Mais... Ouais, c'est ça. Peut-être pas le mot loup parce que là, c'était juste pour avoir une image de ce que c'était que l'ancêtre des cétacés, mais en tous les cas, c'est clair que l'évolution a fait que maintenant ils sont totalement adaptés au milieu marin et toute leur activité vitale, enfin toute leur que ce soit la reproduction, l'alimentation, le repos, le déplacement, etc. Ils peuvent le faire que dans le milieu marin.
Est-ce que d'un point de vue de l'évolution, tiens, on pourrait revenir en arrière ? C'est-à-dire que si on se projette dans 50 millions d'années plus tard, est-ce qu'on pourrait trouver des baleines qui soient redevenues des animaux à quatre pattes marchant sur Terre.
S'il n'y a plus rien à manger. ou plus la possibilité de se reproduire dans l'eau, ils vont forcément revenir à un moment donné. Quoi.
Donc on peut tout imaginer.
On peut tout imaginer. Ouais. Peut-être que c'est nous qui allons y aller. Quoi.
Ouais. On s'est fait l'écho d'une autre publication la semaine dernière qui nous a beaucoup surprise d'ailleurs. C'est dans un article publié dans Nature, des scientifiques suisses qui expliquaient qu'en 70 ans, la taille moyenne des spécimens pêchés a diminué de plus de 4 mètres sur les grands cétacés en particulier. Mauvais signal, annonciateur d'un effondrement des populations de cétacés, c'est ce que concluait cet étude. Alors comment vous l'analysez, vous, de votre côté, Olivier Adam?
Sur les grandes baleines, l'erreur quoi, la baleine bleue, etc., les populations ont été décimées pendant la chasse à la baleine. Et donc, on peut imaginer, en tout cas, par exemple, pour les baleines bleues antarctiques, plus de 99% des populations ont été supprimées. Ouais. Donc là, on peut dire que ceux qui sont restés sont probablement pas les plus gros. Quoi.
Ouais. Donc, il y a un avantage à être petit.
Ouais, je sais pas, il y a un avantage surtout à arrêter la chasse.
Oui, ça évidemment. Ouais. Et c'est d'ailleurs l'objet aussi de vos travaux finalement, c'est de sensibiliser sur la question de ces animaux.
Oui, parce que en fait, moi je suis très attaché à la vulgarisation et puis de porter la connaissance au grand public, ça permet de mieux comprendre ces cétacés, ça permet donc mieux de les protéger et puis de donner du sens à des mesures de conservation qui sont prises par les administrations, qui font de très 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 très, très bon travail, je veux dire. Ouais. Et du coup, c'est important de mettre des choses concrètes sur des concepts comme biodiversité marine ou réchauffement climatique de la planète, par exemple.
Paul nous dit, les sonars émis par les bateaux troublent et perturbent le champ des cétacés. Quelles sont les conséquences sur la vie de ces baleines, justement, aujourd'hui?
Alors, les impacts des activités humaines, c'est une vraie thématique. D'ailleurs, Nadège Gandilon était venue faire une conférence dans le cadre du cycle de conférences sur les cétacés. Et effectivement, on peut mesurer des effets sur les populations de cétacés. Alors, sur les sonars, ça va dépendre quel type de sonar. Là, on va pouvoir rentrer peut-être un peu plus dans les détails, mais en tous les cas, on peut quantifier ce genre de choses. Et il y a des activités humaines qui sont directement impactantes. Il y en a d'autres qui le sont peut-être probablement un peu moins.
Quelles sont les plus impactantes, a priori?
Par exemple, les travaux qui sont les plus avancés sur les sonars, c'est les sonars militaires. Ouais. Et il y a un groupe de chercheurs, de laboratoires qui travaillent justement sur l'estimation de l'impact de ces sonars. Charles Curie était venu d'ailleurs faire une conférence là-dessus, en montrant que ça les gênait. Et donc, ils ont diffusé des sons à des cachalots, à des globicéphales et des baleines à bosse. Et il y a eu des changements de comportement évidents, comme l'arrêt, par exemple, de plongée, l'éloignement de la source, etc.
Olivier Adam, vous restez avec nous, vous êtes notre invité. Les questions arrivent et puis on écoutera des extraits d'un documentaire réalisé par notre camarade Antonio Fischetti, qui vous a suivi à Madagascar et qui a réalisé un documentaire pour Universcience. Le chant des baleines dans la tête au carré avec vos messages sur le site de l'émission franceinter.fr et sur les réseaux avec le mot-clé « l'attaque ».
Ritualistic, cleansing my soul of addiction for now, 'cause I'm falling apart. Yep. Tension between us just like picket fences. You got issues that I won't mention for now, 'cause we're falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you, no, no. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you, no. From a distance, I think we should rule out commitment for now, 'cause we're falling apart. Leaving, you're just doing that to get even. Don't pick up the pieces, just leave it for now. They keep falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you, no, no.
passive with the things you say. Passing up on my always, I can't blame you, no. No.
On découvre ainsi que les chants varient d'une année sur l'autre, pour une même baleine, mais aussi d'une région à l'autre, tout comme les dialectes chez les humains. Les baleines s'influencent aussi dans leurs chants, un peu comme un musicien de valse française qui rencontrerait un joueur de salsa sud-américain et s'inspirerait de ses influences. Le chant n'est donc pas figé, mais il forme une culture sonore qui évolue. Écoutez bien, voici le chant d'une baleine malgache. Une de Saint-Pierre et Miquelon. Et une baleine guadeloupéenne.
Voilà, toujours extrait de ce documentaire, Le Chant de la Mer, avec la voix d'Antonio Fischetti à Madagascar. Vous arrivez à les reconnaître, vous, ces accents de baleine, Olivier Adam, ou pas? Si on faisait un blind test, là, vous seriez capable de les reconnaître ou pas?
Celle que j'ai enregistrée, oui. Par exemple, celle de Guadeloupe qu'on a fait avec Franck de Cluzet, c'était trop énorme, parce qu'en fait, on était au-dessus d'une profondeur de 5 kilomètres. Et du coup, il y a une réverbération qui est juste étonnante, parce que là, le son que vous avez entendu, il n'est pas traité ni rien, c'est le son brut. Et là, donc, du coup, c'est facile parce que on a les unités sonores qui sont différentes de la baleine, mais en même temps, on a le contexte marin, parce que du fait de la profondeur. À Madagascar, c'est totalement le contraire, puisque la profondeur, c'est entre 30 et 40 mètres de profondeur, donc on a vraiment l'impression d'être en studio. On va avoir des sons parfaits, sans réverbération, sans écho, et donc c'est plutôt c'est différent, quoi.
Ouais, mais vous disiez le chant de la baleine change aussi d'un individu à l'autre, et le même individu aussi peut voir son chant changer.
Voilà, il s'influence, hein, d'accord. Dans les mammifères, le but des mammifères, c'est l'imitation, c'est-à-dire qu'on va tous se copier les uns les autres. Et puis s'il y a un son qui marche bien pour attirer des femelles, ou il n'y a pas de raison de pas l'utiliser. Hein. Et donc c'est fort. Et donc au sein d'une saison, on va avoir des mâles qui vont se déplacer dans la zone de reproduction et qui vont s'auto-influencer. Et du coup, on va avoir un leitmotiv qui correspond au lieu, en fait. Par exemple, à Madagascar, on va avoir un leitmotiv qui va changer plus ou moins pendant la période de reproduction, qui dure 2-3 mois. Mais qui reste cohérent. Et en 2009, il y a Hélène Garland, qui est une Australienne, qui a montré en fait que des unités sonores pouvaient se déplacer en fait à l'échelle d'un océan. C'est en fait les mâles vont s'influencer, et du coup il va y avoir certaines unités qu'on va retrouver l'année d'après chez d'autres baleines. Et elle a fait ses tests entre l'Australie par exemple et la Polynésie française, et c'était juste énorme.
Donc il y a une transmission culturelle.
Voilà. Elle a utilisé le mot transmission culturelle dans le titre de son article.
C'est incroyable quand même. Oui.
C'est très fort. Pour le faire passer devant les rapporteurs, on l'a fait très fort.
Alors Sébastien nous dit, les baleines dialoguent-elles d'un océan à l'autre, justement? Jusqu'à quelle distance deux baleines peuvent-elles communiquer ensemble?
Alors ça, c'est une très bonne question. On ne connaît pas la sensibilité auditive des baleines à bosse. On n'a pas fait de potentiel évoqué sur les baleines à bosse. Donc on va avoir, à part ce petit point de détail, nous on peut enregistrer avec nos hydrophones des baleines à plus de 40 km ou 50 km. Probablement qu'elles s'entendent au moins à cette distance-là. Puisqu'elles sont spécialistes de leur son, il n'y a pas de raison. Quoi.
Christophe demande, d'où sort le son? Est-ce que c'est de l'évent ou de la gueule de la baleine? Alors là aussi, il y a des travaux très pointus.
C'est les nôtres. Là, effectivement, c'est ni l'un ni l'autre. En fait, dans le système respiratoire, il y a le larynx, et dans le larynx, il y a des cordes vocales qui ont absolument rien à voir avec les nôtres. C'est-à-dire que c'est pas des ligaments qui viennent fermer le conduit d'air, mais deux cartilages en fait qui viennent bloquer. Et sur les cartilages, il y a des membranes. Et quand elle va ouvrir plus ou moins espacées ces deux cartilages, les membranes vont venir vibrer, c'est ce qui fait les sons harmoniques.
Ouais. Il y a un rôle des lèvres aussi, des baleines?
Non. Toute la bouche, la langue, etc. Tout ça, c'est uniquement pour le système d'alimentation et n'a rien à voir avec le système respiratoire.
Alors, des animaux protégés, je le disais tout à l'heure, par un moratoire depuis maintenant 20 ans. Moratoire relativement bien respecté, sauf il y a les bonnets d'âne attribués au Japon, en particulier à l'Islande.
Je pense qu'on avance plus vite. Les pays lutte contre la chasse arrive à se structurer et à faire des recommandations assez fortes pour la protection de l'environnement marin. Mmh. Et puis voilà, les autres, on va réussir à les convaincre un jour ou l'autre.
Ouais, un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce serait intéressant aussi
pour
les baleines.
Parce que ce sont des cétacés qui sont emblématiques et qui sont, à mon avis, des bons ambassadeurs pour la défense de l'environnement marin.
Mmh. Ce qui est intéressant et ce qui est très étonnant quand on étudie les baleines, c'est leur capacité d'adaptation au fond aussi, hein, depuis la nuit des temps.
Oui, elles ont conquis les océans, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'elles nous impressionnent. Et puis en plus, elles sont extrêmement intelligentes. Les cachalots, c'est 8 kilos de cerveau. Et le cachalot qui, lui, n'a pas été gâté par la nature, avec une tête un peu difforme, avec une mâchoire très longue, avec une vitesse de déplacement des très grandes profondeurs qui est pas top. Et puis un générateur sonore qui est handicapant parce qu'il fait que des clics. Il ne fait aucun sifflement, aucune vocalise.
Ouais.
Et pourtant, grâce à son intelligence, il a su conquérir le monde marin, se structurer en société et puis de n'être inquiété par personne d'autre. Voilà.
Comment faire un documentaire scientifique en parlant de Britney Spears? Eh bien, c'est ce qu'a réussi justement à faire Antonio Fischetti au sujet de la friture vocale des baleines. On va tout de suite écouter cet extrait pour comprendre de quoi il s'agit.
De tous les sons émis par la baleine, il y en a un qui intrigue particulièrement l'équipe d'Olivier Adam, c'est le vocal fry, ou friture vocale en français.
Le vocal fry.
Voilà, tu diminues ton flux d'air, et donc tu vas chercher les graves au maximum. Moi, j'ai du mal à y arriver. Quoi.
La friture,
lancée par Britney Spears dans son fameux tube One More Time.
Cette façon de chanter a un côté sexy chez les humains, mais chez la baleine.
Alors Olivier Adam, puisque c'est vous qu'on entendait à bord d'un bateau à Madagascar au micro d'Antonio Fischetti, donc comparer Britney Spears à une baleine, c'est possible. Et ça nous dit quoi de la baleine alors?
De Britney, je sais pas.
Ouais.
Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on essayait de comprendre comment elle pouvait, avec un seul vibrateur, donc ces fameux cartilages dont je parlais tout à l'heure, réussir à faire des sons extrêmement harmoniques comme les vocalistes qu'on a entendus, et puis ce son pulsé qui correspond à du vocal fry. Et donc on s'interrogeait à ça et on se disait, bon, il doit y avoir une astuce, parce que nous, le but de notre travail, c'est d'essayer de lier des caractéristiques sonores, fréquentielles sonores, avec le mécanisme, en fait, de la morphologie. Et donc, on s'est dit, si jamais elle diminuait son flux d'air pour aller chercher les basses fréquences, on allait pouvoir entendre des flux d'air, enfin, on pouvait l'air passer, quoi. D'accord?
Ouais.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est de dire pourquoi elle fait ça. Alors, effectivement, c'est probablement pour se distinguer des autres, d'attirer des femelles,
etc. De toute façon, c'est toujours dans le cadre d'une action de séduction.
Exactement.
Et de reproduction.
Voilà. Exactement, c'est toujours l'objectif numéro un des mâles baleines lors des périodes de reproduction. Mais ça pourrait être aussi, alors là c'est très spéculatif, hein, parce que on essaie d'émettre quelques hypothèses, mais ça pourrait être aussi un système pour reposer les cordes vocales, parce que vu qu'elles vont chanter pendant peut-être une journée ou deux jours ou trois jours, peut-être qu'à un moment donné, avec ce type de son qui est un peu plus, on va dire, faible en intensité et puis qui sollicite moins ces cartilages, peut-être que ça pourrait aussi leur permettre de se reposer un petit peu.
Claude demande: qu'est-ce que les fanons exactement chez la baleine?
Alors les fanons, c'est des grands. C'est, contrairement aux cétacés à dents qui ont des dents, on va dire comme nous, les fanons, c'est des grandes baleines en fait. Ouais.
C'est des grands rideaux quoi.
Qui sont dans la bouche de la baleine.
On voit la baleine de Pinocchio, hein, c'est exactement ça. Il y a les fanons.
Et qui servent en fait.
À filtrer ou pas?
C'est ça. En fait, elle va ouvrir la gueule, elle va prendre le krill ou les crevettes ou des petits poissons, et après en fermant la gueule, l'eau va être éjectée à travers les fanons et tout le reste va être pris à l'intérieur, donc elle va pouvoir déglutir facilement.
Olivier Adam, on se retrouve dans un instant, non pas après Britney Spears, mais après Benjamin Biolay.
Mais c'est la fin pour moi du chemin de croix, je crois.
seule fois. Amour, Roma, parle-moi d'amour, parle-moi de toi, remonte une seule fois. C'est un bien beau séjour, bien mérité, je crois. Nous prime cher, mais c'est toi que j'ai dans ma chair. Plus les lambeaux du temps jadis, d'un temps naguère. Remonte un seul jour, amour. Remonte une seule fois, amour. Parle-moi d'amour, amour. Remonte une seule fois. L'impression que toujours tu t'aimes. Pour moi, remonte un seul jour, amour. Pour moi, remonte une seule fois, amour. Pour moi, parle-moi d'amour, amour. Pour moi, remonte une seule fois.
Roma, Benjamin Biolay, dans notre tête au carré, qui accueille Olivier Adam, bioacousticien spécialiste des cétacés, avec lequel nous parlons donc du chant harmonieux et amoureux des baleines mâles, puisqu'on a compris que ça n'était que les mâles qui émettaient ces sons. La saison des amours, là, ça a commencé ou pas?
Alors, dans l'océan Indien, ça a commencé depuis une semaine, là, et ça va finir vers le 15 septembre, peut-être un peu fin septembre, et c'est parti. Là.
Alors, les sons, c'est pas que les mâles, il y a également les femelles et les petits, les chants sont liés aux mâles, mais les sons, évidemment, les femelles et les petits en émettent.
Voilà, tous les cétacés émettent des sons, donc ça n'est pas un souci. Là, on part simplement des chants. Les chants, en fait, c'est des unités sonores qui sont organisées dans le temps et qui sont répétées. Alors, certains auteurs ont utilisé aussi le mot chant pour les baleines bleues, parce que les baleines bleues émettent des sons en séquence. Ouais. Donc, voilà. Mais les baleines à bosse arrivent à faire des sons qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus travaillés, et donc ça fait des chants un peu plus sympas à étudier que simplement des grognements. Quoi.
Alors, les auditeurs restent un peu sur leur faim, sur la question d'où sort le son. Ils aimeraient bien que vous expliquiez encore un peu ça.
En fait, c'est le système respiratoire. Alors, chez les parce que les odontocètes, c'est totalement différent, mais pour les mysticètes, donc les grandes baleines à fanon, le système respiratoire est composé des poumons, donc les poumons peuvent accueillir entre 1000 et 2000 litres d'air. En fait, tout est surdimensionné, classé facile. Après, il y a la trachée qui doit faire 1m50 en gros, et puis dessous, connecté à la trachée, dessous, il y a un sac, d'accord, exactement comme un ballon, et qui vient recevoir l'air. Donc en fait, quand on observe une baleine qui est en train d'émettre des sons, il n'y a pas d'air qui sort des évents ni de la bouche, parce que de toute façon, la bouche est déconnectée du système respiratoire. Et donc, tout est fermé, c'est un système fermé. Et donc la baleine fait circuler l'air des poumons vers le sac laryngé et inversement, ça c'était utilisé pour la respiration, pour prolonger les apnées. D'accord, vous pouvez le faire chez vous dans votre baignoire, vous soufflez dans un ballon et après vous réaspirez l'air, ça va pas marcher longtemps, mais en tout cas,
c'est vrai,
vous pouvez gagner un petit peu. Quoi.
C'est vrai.
Bon, et à la jonction, ce qui permet de faire circuler cet air-là, il y a des cartilages, donc on appelle arytenoïdes, et donc qui vont s'écarter plus ou moins et c'est ça qui va créer le vibrateur. Donc c'est un vibrateur.
Ouais. Comment se propage le son vraiment, demande Jules, lui, alors?
À l'intérieur de la baleine, ça c'est un petit peu
une fois
délicat.
Qu'il est sorti, hein.
Voilà, mais une fois que après c'est facile dans l'eau, il se propage très bien, 1500 mètres par seconde. C'est le son se propage, on va dire mieux et plus loin dans l'eau que dans l'air, parce que
mais c'est toujours
le milieu
la même vitesse.
Est plus dense.
C'est toujours la même vitesse dans l'eau.
Non, il y a une vitesse qui varie dans la colonne d'eau, mais en gros, c'est 1500 mètres par seconde.
Olivier Adam, est-ce que les baleines chantent faux? Parce que ça c'est intéressant, si tu d'en parler. Parce que est-ce qu'il y a des couacs?
Ouais, alors on s'intéresse un petit peu à la musique. Alors après, on va peut-être pas comparer les chants des animaux avec des performances musicales. Enfin, même si d'ailleurs, ouais. Moi je commence un projet avec une compositrice, Aline Pénito, justement sur la musique concrète et qui fait un travail énorme à partir des chants des cétacés. Mais on a remarqué quelque chose, notamment pour les bonobos, c'est que dans leurs chants, un certain nombre d'unités sonores étaient loupées. Alors loupées, ça veut dire qu'ils n'arrivaient pas à tenir la fréquence. D'accord, un peu comme voilà, quand on n'est pas professionnel du chant, bah on commence et puis à un moment donné, il y a un petit flottement.
On passe pas l'orchestre, quoi, ouais, hein, clairement.
Ça. Voilà. Et en fait, et c'était pas anecdotique. Par exemple, il y a des mâles, plus de 50% de leur unité sonore sont avec des sauts de fréquence ou avec du bruit, c'est-à-dire qu'ils commencent une unité sonore, puis après ils reprennent l'unité sonore. Donc on se demande bien ce qu'ils sont en train de faire.
C'est quoi, c'est un apprentissage ou c'est vraiment un loupé? Alors on peut imaginer quoi?
Alors du coup, Dorian Cazot qui a fait cette étude-là, on a émis plusieurs hypothèses. Là aussi, c'est assez spéculatif, mais ça peut être de plusieurs raisons. La première raison, c'est que morphologiquement, peut-être qu'il y a, je sais pas moi, un kyste au niveau des cordes vocales et donc qui leur empêche de faire des beaux sons. Mm-hmm. Ça peut être aussi de l'apprentissage. Alors, les jeunes pourraient pourraient ne pas être aussi professionnels que les plus anciens, mm-hmm. on va dire. Et puis, ça pourrait être aussi une autre approche qu'on a un peu plus détaillée parce que ça nous semblait assez intéressant et attractif. C'est que lorsqu'on est dans un groupe et qu'on veut attirer l'attention des femelles ou l'attention des autres mâles pour bien montrer qu'on est là, si on arrive à faire des petites différences par rapport à un leitmotiv que tout le monde est d'accord à admettre, si vous jouez un virtuose, un virtuose par exemple, on va lui demander d'interpréter une chanson et c'est justement un peu la construction autour du thème principal de la chanson qui va nous faire dire que c'est un professionnel, il est virtuose, mm-hmm. etc. Et on s'est dit par exemple pour les baleines, ça pouvait être un peu la même chose, c'est-à-dire que si elles commençaient à faire des petites variations autour du leitmotiv principal, elles pouvaient attirer probablement l'attention des femelles, ou en tout cas de dire aux autres mâles, moi je suis différent, et il ne faut pas trop faire trop de différence non plus, parce qu'après on est exclu du groupe,
c'est ça.
Mais quelques petites différences bien.
En tout cas, vous nous confirmez que certaines baleines chantent comme des casseroles. Il n'y a pas de raison. On va écouter un dernier extrait du documentaire d'Antuno Fischetti, qui a été tourné, on le rappelle, à Madagascar, et qui parle là du lien entre la maman et son petit.
Les femelles baleines ne chantent pas, c'est-à-dire qu'elles n'émettent pas de longs motifs complexes, comme les mâles. En revanche, elles émettent une multitude de sons très courts. On les appelle des sons sociaux, car ils servent à maintenir des contacts, en l'occurrence entre la mère et son jeune.
L'avantage d'avoir la coussante, justement, c'est de pouvoir les suivre, c'est de pouvoir enregistrer en permanence ce qu'ils ont. Donc nous, par rapport aux données que l'on a, la moyenne de rattachement de la coussante sur la mère ou le petit est entre 3 heures et 4 heures. Et ce qui veut dire qu'on peut vraiment suivre leurs activités. L'avantage, c'est que l'on arrive à voir les vocalises qui sont en profondeur et en surface. Et c'est là qu'on a réalisé que la majorité des activités sonores qu'ils produisent, en fait, sont produites pendant que la mère et le baleineau se retrouvent en surface.
Voilà, qui est cette jeune femme que nous venons d'entendre, Olivier Adam?
Anger Saloma, qui fait sa thèse avec Isabelle Charrier et moi-même en co-tutelle avec l'université de Antananarivo à Madagascar, et qui a un sujet passionnant. Parce qu'en fait, on s'intéresse, la première question qu'on s'était posée, c'était est-ce que les baleineaux sont capables de faire des sons, quoi? Ouais. Et les baleineaux nouveau-nés, hein, c'est pas les baleineaux qui ont 2 mois ou 3 mois, ils viennent de naître, ils ont peut-être même pas une semaine, quoi. Ouais. Et donc, on a posé des hydrophones, c'est-à-dire qu'on a posé des micros directement sur la mer et sur le baleineau sans leur faire mal, hein, parce que c'est des ventouses, il n'y a aucun problème par rapport à ça, mais par contre on est capable du coup d'enregistrer leur émission sonore. Et alors c'est moins travaillé que les mâles qu'on vient d'entendre, c'est plus des grognements, c'est plus des sons plus courts, plus basse fréquence, etc. Mais il y a des interactions vocales entre la mère et son baleineau.
Donc c'est ça, parce que vous répondez à la question que je ne vous ai pas posée tout à l'heure, c'est l'hydrophone qui vous sert aussi à capter ces sons.
Alors voilà, l'idée c'est de mettre des micros sous l'eau et puis d'enregistrer, donc soit à distance parce que le cétacé on l'a pas vu, il peut être à plus d'un kilomètre ou pas, soit directement assez proche et du coup on va pouvoir décrire les émissions sonores qui sont émises par le cétacé, mais aussi son environnement, parce qu'on sait s'il y a des bateaux par exemple, ou s'il est proche de la côte, ou si d'autres informations qui correspondent à un paysage acoustique. L'environnement acoustique est une thématique assez principale en ce moment-là.
Ah mais il y a plein de thématique, en tout cas, on l'a vu avec le cycle de conférences. Le goût et l'odorat des baleines, ça c'était une autre conférence qui a été donnée à l'aquarium de la Porte Dorée.
Aurélie Sellarié de Montpellier a fait un travail exceptionnel. C'est peut-être la seule au monde qui travaille sur le goût, parce qu'on pensait que le goût ou l'odorat des cétacés était quelque chose qui n'était pas vraiment important ou pas vraiment travaillé. Elle s'est intéressée à ça et c'est exceptionnel, un travail exceptionnel.
Donc elle a fait une conférence sur le sujet. Voilà, en attendant, on peut retrouver ce livre « Cétacés, nouvelles connaissances issues de la recherche française » avec Dorian Cazot, dont vous dites que c'est un génie dans son domaine. Hein. Et on peut découvrir donc cet ouvrage chez Diriac. Et puis, le film d'Antonio Fischetti qui est en accès libre, il fait 20 minutes, donc c'est gratuit. Et il suffit d'aller sur le site d'Universcience. Il est en lien, je crois, sur La Tête au Carré. Chantal Le Montagnier me le confirme. Donc vous pouvez regarder ce voyage à Madagascar autour du champ des baleines à bosse. Merci infiniment, Olivier Adam, d'être venu. Et bon voyage donc pour la prochaine destination.
On prépare la saison, la saison 2017 et bientôt 2018. Et on annonce de beaux travaux là.
Eh bien, on s'en fera l'écho, j'espère. Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Alors après avoir critiqué l'obligation vaccinale la semaine dernière, vous voulez maintenant nous dire du bien des vaccins ?
Bah oui Mathieu, parce que les réactions à ma dernière chronique et à l'article sur mon site montrent qu'il persiste beaucoup d'incompréhension autour de la vaccination.
Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement ?
Bah en fait, les pro-obligations, ils brandissent la mise en danger de la population vaccinée par les non-vaccinés. Mais c'est un mythe. Les cas de rougeole mortelle chez les immunodéprimés vaccinés dans l'enfance sont rarissimes. Quant à l'allergie au vaccin, elle est surtout invoquée comme alibi par ceux qui veulent échapper au vaccin obligatoire. Non. Clairement, les gens qui refusent les vaccins se menacent entre eux.
Et les cas récents de méningite chez les étudiants?
Oui, c'est vraiment une actualité. Ouais. Eh bien, ce sont dus à des bactéries rares qui ne sont justement pas incluses dans les 8 vaccins candidats à l'obligation et donc elles n'auraient pas pu prévenir ces décès. Mmh. En fait, ce qui manque cruellement, c'est bien une information objective sur les vaccins et c'est justement à quoi je voudrais contribuer pour ma dernière chronique de l'année.
Eh bien, on vous écoute alors, Dominique.
Eh bien, commençons par la polio et la diphtérie qui tuaient en France des milliers d'enfants tous les ans et qui ont quasiment disparu grâce aux vaccins. Mais, paradoxalement, comme ces maladies ne circulent plus, en France en tout cas, un sujet non vacciné courrait peu de risques. Mais je lui conseille vivement de voyager, notamment en Afrique, en Amérique du Sud. Le tétanos, lui, il se contracte lors d'une plaie profonde et souillée par de la terre, le coup de bêche dans le pied. Le traitement des plaies a fait des progrès, mais le risque reste présent partout puisqu'on ne peut pas éradiquer le germe.
Alors, donc diphtérie, tétanos, polio, ce sont les trois vaccins actuellement obligatoires.
Voilà, pour le moment. Ça. Et leur intérêt, franchement, ne se discute pas. Ils sont regroupés ensemble dans la même seringue. Les risques d'effets indésirables sont infimes et essentiellement liés à la présence d'aluminium, c'est-à-dire adjuvant destiné à renforcer la stimulation du système immunitaire. Alors, on peut ajouter d'autres vaccins dans la même seringue, hein, la coqueluche par exemple, maladie qui peut tuer les nourrissons, et qui circule beaucoup en France chez les adultes, et puis les infections graves à Haemophilus, elles aussi devenues rares grâce à la vaccination, et on obtient ce qu'on appelle un vaccin pentavalent, c'est-à-dire qui protège contre 5 maladies, penta en grec. Enfin, on peut ajouter une 6e maladie dans la seringue, l'hépatite B, qui devient hexavalent le vaccin alors puisqu'il a 6 valences. Ceci dit, bon, l'hépatite B, ça concerne surtout les professions à risque, les toxicomanes, les hypersexuels et les voyageurs en Asie, mais pourquoi ne pas profiter de cette piqûre unique pour protéger contre 6 maladies? Car encore une fois, les rares effets secondaires sont surtout liés à l'adjuvant aluminique et il est injecté de toute façon.
Et les autres vaccins qui pourraient devenir obligatoires
Alors en tête, le vaccin rougeole, oreillon, rubéole, triple vaccin qui ne contient pas d'adjuvant et dont le rapport bénéfice-risque est absolument indiscutable car ces maladies circulent encore et peuvent avoir de lourdes conséquences. Enfin, deux autres vaccins sont destinés à lutter contre les méningites à pneumocoque d'une part et méningocoque d'autre part. Ces maladies sont plutôt rares, l'effet protecteur du vaccin n'est pas évident et il n'est pas absurde d'y renoncer, d'autant que chaque fois c'est une multiplication des injections d'aluminium.
Et les autres vaccins, Dominique ?
Bah écoutez, je peux pas tout détailler en 3 minutes. Il y a encore le BCG, celui contre le cancer du col, la varicelle, le zona. Mais je rappelle à nos auditeurs l'existence d'un document exceptionnel qui a été présenté ici. Le hors-série de Science et Vie de décembre 2016 consacré aux vaccins. C'est à la fois clair, pédagogique, bien documenté, sourcé. Nos autorités sanitaires feraient bien de s'en inspirer.
Voilà, votre chronique est à retrouver sur franceinter.fr. En attendant de vous retrouver, vous, à la rentrée prochaine, cher docteur.
Bon été.
Et bon été à vous, Dominique Dupagne. Merci beaucoup. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour Mathieu Vidard.
On fait encore la fête aujourd'hui chez vous.
Oui, cette fois les années 90 avec les rêves partis. Oui. Et nous aurons deux invités, comme hier, Guillaume Kosmicki, musicologue, auteur du livre Free Party, une histoire des histoires, et Vincent Tanguy, qui est organisateur de Free Party. On dit Free Party. Hein,
donc il y aura de l'ambiance chez vous.
Voilà, il y a rêve party et Free Party. Vous voulez connaître la différence?
Eh bien on
vous
le saura. Affaires sensibles, dans un instant. Voilà du teaser.